88.4.
Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième psychodébat. Donc, c'est la cinquième semaine où on intervient pour parler d'un sujet et se réunir, partager. Alors, le psychodébat, c'est quoi ? C'est simple, c'est une discussion sur le bien-être, la psychologie autour d'un sujet particulier. On a fait sur la créativité. La semaine dernière, c'était sur l'orientation professionnelle. Et je vous invite à écouter l'épisode qui est disponible sur radiogalère.org. Et cette semaine, on se concentre sur la multiculturalité. Donc, on va beaucoup aborder grandir dans différentes avec différentes cultures. Donc, moi, je me présente déjà. Moi, c'est Sarah. J'ai grandi et je suis née à Marseille. Et ce sujet me tenait beaucoup à cœur. C'est la première fois que j'anime une émission en solo. Donc, soyez indulgents. Et j'ai des invités qui vont parler de leur point de vue avec différents vécus et qui vont permettre d'apporter leur pierre à l'édifice dans cette conversation et pouvoir partager les différents aspects de la multiculturalité. Donc, je les laisse se présenter. Maria, vas-y.
Alors bonjour à tous, moi c'est Maria, donc je suis née en France de parents russes, donc voilà j'ai la double nationalité, un peu cette double culture et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui.
Alors Karim, je te laisse te présenter.
Ben, moi je m'appelle Karim, j'ai 21 ans, j'ai grandi à Marseille, c'est un lieu assez multiculturel donc je pense que c'est le débat même où je pourrais participer et je suis heureux d'être là.
Et je laisse Angie en technique se présenter. Oui. Angie, elle arrive tout de suite.
Ok, oui, pardon. J'étais en train d'allumer le mauvais micro. Donc, je m'appelle Angie et moi, niveau multiculturalité, c'est plutôt en ayant grandi en Malaisie, enfin la moitié de ma vie en Malaisie. Donc voilà, une belle-mère chinoise.
Oui, donc on aura beaucoup de sujets. On va un peu se concentrer sur Marseille parce que trois personnes sur quatre ont grandi à Marseille. Une personne découvre Marseille actuellement, donc on aura différents points de vue et on aura des expériences différentes parce que même si c'est la même ville et pour des villes différentes, on a quand même pas mal de choses à dire. Donc la multiculturalité, pour moi, c'est grandir avec différentes cultures. Donc moi, ça s'est exprimé par une culture qui était présente à la maison, car je suis issue de parents issus de l'immigration et je suis la deuxième génération présente. Et j'ai grandi avec la culture comorienne à la maison. Donc mes deux parents étaient comoriens, ils parlaient comorien. Et la culture française à l'école est un brassage de toutes les cultures présentes. Donc des habitants venus. C'est vrai que Marseille, c'est une ville portuaire. Donc on a la chance d'avoir une multiplicité ethnique formidable qui se traduit à différents paramètres. Et je voulais savoir comment vous, ça s'est traduit dès votre enfance. Je pense qu'on va commencer du début et après continuer et voir les impacts. Mais déjà, comment ça s'est traduit et comment vous voyez la multiculturalité dans votre vie ?
Alors, du coup, moi, je suis née en France, donc comme j'ai dit, de parents russes. Donc, à la maison, on parle russe. J'ai commencé à parler russe à la maison. Et après, quand je suis entrée à l'école, c'est là que j'ai appris un peu le français. Et en fait, ce qui se traduit, c'est que j'ai un peu une double culture, même au niveau de l'éducation. J'ai une éducation russe, mais d'un autre côté, je suis allée à l'école en France. Donc voilà, c'est un peu le choc des cultures. C'est assez intéressant. Ouais.
Et toi, Karim, comment tu le traduis ?
Ben, pour ma part, j'ai eu de la chance d'avoir des parents comoriens, mais qui m'ont plutôt poussé à intégrer la culture française assez facilement par ils m'ont d'abord appris à parler français, enfin, on parle français à la maison. Donc, j'ai pas forcément eu ce choc à la maison entre la France et les Comores. Et c'est par là que j'ai compris après à l'école qu'il y avait une multiculturalité où je vivais.
Oui, la chose assez drôle, c'est que Karim est mon petit frère. Donc, on a eu la même éducation, mais à des périodes différentes, parce qu'on a 5 ans d'écart. Et moi, mes parents parlaient beaucoup plus comorien quand j'étais petite que Karim. Donc c'est vrai que moi j'avais la langue et j'ai passé pas mal de temps aux Comores par rapport à lui, enfin en étant beaucoup plus âgée. Donc j'avais la langue, mais j'avais pas cette barrière-là parce que mes parents parlent beaucoup français. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans une ville multiculturelle, on se retrouve aussi dans des lieux où on ne parle pas forcément français. Ça c'est un point à aborder parce que moi mon père est venu longtemps à Marseille et il parlait comorien avec ses congénères comoriens. Donc ils se retrouvaient à parler français qu'à la maison finalement. Et il y a aussi une chose très différente, c'est la naissance d'un argot qui est donc inspiré de la multiculturalité présente sur le territoire, qui est inspiré donc de patois présents déjà de base avec le provençal, mais avec des influences arabes, gitanes, comoriennes qu'on peut voir du coup dans la musique et aussi dans les langues de rue et qui rentrent petit à petit dans notre dictionnaire et qui s'officialisent. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de montrer la richesse de la multiculturalité. Et je vais laisser Angie témoigner sur la multiculturalité dans son enfance.
Oui, alors moi, du coup, c'était... Enfin, j'ai pas eu énormément de multiculturalité quand j'étais enfant. J'avais mon grand-père qui était italien. Du coup, il y avait quand même l'empreinte italienne qui était assez forte dans ma famille du côté de ma mère. Mais en dehors de ça, j'habitais en Normandie, donc c'est pas un coin où il y a beaucoup de multiculturalité, j'avoue. Mais du coup, quand mon père il est parti en Malaisie pour le travail, c'était une opportunité comme ça, il a décidé d'y rester et du coup, c'était important pour lui qu'on vienne avec ma sœur découvrir le pays et potentiellement y rester pour y vivre. Et du coup, là, j'ai vraiment eu une expérience assez riche au niveau de la culture parce que j'ai découvert des choses incroyables. Enfin, c'est une chance inouïe, en vrai, pour un enfant de 7 ans à l'époque. Et du coup, il est resté là-bas. Donc, depuis ce moment, j'ai toujours fait les voyages pour aller le voir. Après, il a eu une compagne chinoise, donc du coup, j'ai été aussi élevée par elle en partie, surtout quand je suis partie faire mon lycée en Malaisie, donc pendant 4 ans. Et donc voilà, pour moi, la multiculturalité, c'est surtout lié à la Malaisie et au fait que déjà en Malaisie, c'est un pays qui est très multiculturel parce que c'est... des Indiens, surtout Chinois et Malaisiens qui vivent ensemble en communauté. Voilà.
Ok, donc merci beaucoup Andy pour ton témoignage. Et j'aimerais demander, parce que beaucoup, ce sujet est revenu souvent dans vos interventions, mais j'aimerais reparler de la langue et vous demander combien de langues vous parlez. Est-ce que c'est issu de votre vécu, donc de la multiculturalité, de l'école, de vous-même, votre apprentissage? Et comment ça impacte vous en tant que personne? Parce qu'après, on va se pencher sur la question de son identité, comment on se sent dans la multiculture et où on se place. Donc, moi, je vais commencer par moi, un peu égoïstement. Mais moi, je parle français, enfin, plus ou moins bien. Et anglais, que j'ai appris à l'école de manière succincte, mais surtout en regardant des séries et en écoutant des musiques. Je pense, comme la plupart des gens qui parlent bien anglais, regardez YouTube, les gars, vraiment. Et sinon, je comprends très bien le comorien. Je le parle moins bien. Je suis actuellement en train de prendre des cours de perfectionnement de comorien tous les samedis pour me sentir plus proche de la culture et me l'approprier parce que ça devient de plus en plus la culture de mes parents que la mienne. Donc j'ai envie d'être un acteur actif de cette culture-là. Et je lis l'arabe et le grec. Mais je ne le parle pas du tout. Donc voilà.
Les cours de grec, c'était quelque chose.
Oui, Maria était au collège avec moi. Donc voilà. Moi, je sais l'alphabet et le lire, mais je ne peux faire aucune traduction. Voilà. Donc vous, vos langues, Maria, par exemple?
Alors du coup, moi, je parle couramment français et russe. J'ai appris l'anglais aussi, donc dans le cadre de ma scolarité. Mais j'ai aussi appris donc, l'espagnol et l'italien. Alors j'ai beaucoup perdu faute de pratique. Mais voilà, c'était dans le cadre de mes études. Et en fait, si déjà de base tu es bilingue, t'as plus de facilité après pour apprendre. Donc voilà, je dirais 5 langues à peu près.
Ok. Et toi, Karim?
Pour ma part, c'est pas si riche, aussi riche que ça. Quand j'entends déjà parler grec ancien et tout, moi je suis que sur le français. L'anglais, je me débrouille. Et le comorien, je comprends des mots. Ça s'arrête là. Vraiment, c'est mon summum. Et l'espagnol, bon, c'est niveau scolaire. Moins.
Et toi, Angie?
Moi, du coup, j'ai appris l'allemand quand j'étais collège-lycée, parce que ma mère, elle est prof d'allemand, donc j'avais pas trop le choix. Après, l'italien, c'était assez naturel, parce que beaucoup d'Italiens autour de moi, et puis on allait souvent en vacances en Italie, donc j'ai eu des bonnes bases, mais voilà, besoin d'un grand perfectionnement quand même. Et sinon, l'anglais, parce que je suis allée en Malaisie et qu'on m'a lâchée dans une école internationale quand j'avais 7 ans, quoi. Donc forcément, j'avais pas trop le choix. Mais c'est les trois langues et le français, forcément.
Moi, je dirais que le fait d'être au moins bilingue, je dirais pas polyglotte, parce que j'ai trop de langues...
moyennement acquises.
Voilà, on va dire ça comme ça pour être gentil. Mais ça m'a permis une curiosité de l'autre, déjà. Et ça m'a aussi permis de m'adapter assez facilement quand j'ai une personne différente en face de moi. Et intuitivement, je prends l'accent des gens. Déjà, il faut savoir que petite, en français, je parlais avec l'accent marseillais. Mais un accent très, très poussé.
Oh my God.
Parce que j'avais une espèce de nourrice. Enfin, c'était une voisine qui était provençale, pure souche. Et qui m'a donné son accent marseillais. Donc, personne n'avait l'accent marseillais à la maison, sauf moi. J'étais une petite de 3 ans qui arrivait à l'école. Et je l'ai perdue à l'école, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais je l'ai de temps en temps quand je reparle avec des gens qui ont l'accent marseillais pendant longtemps. Et c'est des choses qui arrivent sur, du coup, beaucoup d'aspects de ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, le comorien, je le parle de manière très succincte. C'est-à-dire que je peux m'exprimer sur les paroles du quotidien. Mais j'ai un assez bon accent. Donc, à partir du moment où j'essaye de m'exprimer de manière un peu plus complexe, on comprend que je ne le parle pas très bien, mais comme j'ai un bon accent, on se demande si j'ai un problème d'apprentissage, carrément. c'est très perturbant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont récupéré l'accent dans leur enfance, mais qui n'ont pas continué à pratiquer une langue. Donc, on se retrouve à devoir limite se justifier quand on parle et glisser des mots en français pour comprendre que c'est pas ma langue dans mon cerveau et que je suis obligée de traduire chaque mot que je suis en train de vous dire. Donc c'est vrai que ça apporte une différente manière de réfléchir. C'est pour ça que je voulais poser la question des langues. Et je trouve ça très important d'en parler, surtout à Marseille, comme je le disais tout à l'heure. Et pour moi, je voulais parler des langues, parce que c'est des choses qu'on apprend dès l'enfance. Et je voulais rebondir sur la quête d'identité. Donc moi, je voulais parler des aspects positifs et négatifs du coup, de cette multiculturalité. La quête d'identité, c'est un peu le but d'une vie, je dirais, parce que tout le monde se cherche un peu. Et quand il y a plusieurs cultures, parfois, c'est dur de trouver sa place. Alors, je voulais savoir, chacun de vos côtés, comment vous trouvez votre place dans les différentes cultures que vous avez abordées, quel est votre sentiment d'appartenance, quelles sont les choses au quotidien qui vous font penser à une culture et pas une autre, ou un mix des deux, enfin... Donner des anecdotes, des choses qui vous imprègnent de chaque culture que vous avez abordée. Donc Maria, je te laisse commencer.
Alors moi, je dirais que pour les Français, entre guillemets, parce que bon, je suis aussi française, mais je veux dire, pour les gens de mon entourage, j'ai plus un caractère de Russe, tandis que pour les Russes, j'ai plus un caractère de Française. C'est-à-dire que pour les Français, je vais être peut-être un peu plus directe, plus franche dans ma manière de parler, parce que les Russes, on est un peu comme ça. Pour les Russes, je ne le serais pas assez. Mais bon, c'est un point parmi tant d'autres, mais je dirais que c'est surtout ça, la différence de personnalité, je dirais. On peut me prendre un peu pour une brute des fois, alors que pas du tout, mais voilà. Et je dirais que c'est ça au niveau de la personnalité qui prime, on va dire.
Et toi, Karim ?
Pour ma part, niveau aspect, je trouve que, déjà pour commencer, pour venir à tout ce qui était langage et accent, j'ai pas eu cette nourrice qui m'a transmis l'accent marseillais, mais je me sens marseillais malgré ça. Donc j'ai pas d'accent marseillais, mais je me sens marseillais. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'on me voyait, comme comorien en France et au Comores comme français. Mais je me suis rendu compte en grandissant qu'on me voyait plus comme un marseillais, parce que c'est la vie actuelle de plusieurs marseillais, de cette multiculturalité, de ce croisement des cultures. C'est plus la vie de plusieurs marseillais que... un cas isolé. Genre, je suis pas un cas isolé, je trouve qu'à Marseille, on est plus plongé dans ça que dans le reste du monde.
Et toi, Andy ?
Moi, j'avoue que je me sens plutôt française et j'ai pas l'impression d'avoir une question d'identité autour de toutes les influences culturelles que j'ai eues dans ma vie. Enfin, j'ai plus l'impression que ça me donne une capacité d'adaptation incroyable et que ça me permet de m'identifier à un panel de gens et de cultures très différentes. Mais au-delà de ça, je sais pas, je m'identifie pas à quoi que ce soit de particulier, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Donc on arrive à un quart de l'émission déjà. On parle bien et c'est une belle discussion. Mais je voulais vous rappeler que vous pouvez intervenir en direct au téléphone. Donc n'hésitez pas à appeler au 04 91 08 28 10 et à participer au live YouTube. Regardez nos différents réseaux sociaux, Psychodébat avec un S à la fin. Pour la plupart, sur Instagram, vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn, si ça vous dit. Mais il y a un live YouTube en ce moment et vous pouvez poser vos questions. Donc on va continuer en parlant, bien sûr, donc je voulais approfondir la question de la quête d'identité. Donc moi, c'est vrai qu'en grandissant à Marseille, j'ai eu cette facilité à être imprégnée de la culture comorienne, parce qu'on est beaucoup de Comoriens à Marseille. Et donc j'avais les gens qui parlent comorien autour de moi, mais j'ai grandi dans un quartier où on était même pas une dizaine de comoriens, donc de famille comorienne on était 5. Donc j'étais plus entourée d'autres cultures et la connaissance de ma culture c'était dans ma maison, donc les quatre murs de ma maison avec mes parents, ou alors en rendant visite à ma famille et ou en faisant des activités culturelles dans ma communauté. Donc je trouve que c'est important de se sentir imprégné dans une communauté, quelle qu'elle soit, et de se sentir accueilli dans les différentes communautés, parce que ça permet la construction d'une personne et ce sentiment d'appartenance et d'identité. C'est vrai que quand on parle de différentes cultures, après on a parfois une impression de ne pas se sentir chez soi ou qu'on soit, mais je pense que l'important justement c'est de pouvoir se sentir à l'aise tout le temps en soi et pouvoir du coup construire son chez soi peu importe où la vie nous mène. C'est vrai qu'on est tous assez jeunes autour de cette conversation et je pense qu'on aura beaucoup d'opportunités et de pouvoir se reconstruire et de se redéfinir. Donc c'est important de pouvoir s'asseoir sur des bases concrètes et continuer à pérenniser un peu tous les apprentissages qu'ont pu nous faire ces différentes cultures. Donc c'est vrai que la culture amène beaucoup de questions. On peut donc se demander quelles sont vos différentes observations négatives que vous pouvez voir de la multiculturalité. Parce que c'est vrai que là, tout est beau, tout est bisounours. Et c'est vrai que c'est beaucoup, très très beau. Marseille, cosmopolitanie, comme dirait Soprano. Non, on a beaucoup d'aspects beaux, mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser quelles ont été vos problématiques et surtout comment vous en avez fait face. C'est intéressant de partager vos témoignages et de voir aussi si des gens qui nous écoutent pourraient se sentir concernés par les différentes approches que vous amenez. Maria, je te laisse.
Je pense que le multiculturalisme, donc, comme tu as dit, c'est assez positif. Après, si on doit parler du côté un peu négatif, ça serait plutôt du communautarisme, si je me trompe pas. Donc, en fait, il y a un danger quand les communautés se rejoignent un peu entre elles. J'ai un exemple concret, c'est qu'à un moment, j'ai vécu en Irlande pendant 6 mois et j'enseignais à des réfugiés ukrainiens, donc l'anglais, enfin bref. Et c'est vrai que ces gens-là, ils avaient tendance un peu à rester entre eux parce que c'est normal, ils ont ce besoin de sécurité, de se retrouver entre eux. Mais du coup, ils avaient beaucoup plus de mal pour apprendre du coup l'anglais, à part à ces cours. Après, en sortant du cours, tout de suite, ils reparlent en ukrainien ou en russe et voilà quoi.
Merci beaucoup, Maria, pour ton intervention. Donc, on a reçu un appel et on va tout de suite le diffuser. On vous écoute.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous m'entendez bien ?
Oui.
Oui, bonjour, j'espère que toute l'équipe va bien.
Oui, oui, merci beaucoup.
J'ai vu qu'on parlait de la multiculturalité, pardon. Du coup, je voulais vous poser la question. À quel point vous pensez, en fait, que... du coup, on peut parler des cultures individuelles aussi, c'est ça ?
Oui, totalement. C'est...
Du coup, à quel point vous pensez que grandir dans une culture particulière, ça peut influencer sur la formation de la personnalité et de l'individu en tant qu'obstacle, par exemple, mais peut-être aussi sur le point positif, mais ça peut quand même aussi présenter des obstacles, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je pense qu'on va chacun donner son avis. Peut-être que je vais commencer par moi, et puis la personne qui veut prendre la parole, n'hésite pas à lever la main. Mais moi, ce que je dirais, c'est que oui, on a parlé beaucoup d'aspects positifs, parce que ça apprend la curiosité, à devoir s'adapter. C'est beaucoup un truc d'adaptation. Mais comme disait Maria, juste avant, je trouve que ça colle parfaitement avec le sujet de la question, c'est important aussi de pouvoir prendre du recul et voir comment individuellement on existe, ce qui nous plaît ou pas. Et je trouve que, après, ça dépend aussi de l'éducation, mais l'aspect de communauté et d'individuel, voir un peu aussi ce qui est à prendre et ce qui est à délaisser, voir aussi ce qui nous impacte positivement et négativement. Je pense qu'aussi, parfois, quand on est issu d'une communauté, c'est important d'en sortir, même juste une semaine, et voir aussi comment on évolue en tant que personne. C'est important de prendre du recul sur tout dans la vie, je pense. Et surtout quand on est très jeune, on est parfois très imprégné de beaucoup de choses et on a beaucoup d'acquis qu'on pense solides sur plein de choses, mais il faut savoir se poser les bonnes questions et parler à d'autres gens. Je pense que c'est important de lancer la discussion et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais c'est de pouvoir parler. Donc je laisse Angelina rebondir.
Oui, ce que je voulais ajouter, ouais, c'est que je trouve que c'est quand même une chance quand on est né dans une certaine culture d'avoir aussi accès à la culture du pays dans lequel on réside. Par exemple en France, de pouvoir se dire, bon en fait dans ma culture on m'a appris ça, 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 et peut-être que ça me pose problème aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux tirer par exemple de la culture française et récupérer chez eux pour en faire... mixer les deux, en fait, pour que ça me convienne, quoi, et que ça soit quelque chose de sain, en fait, tout simplement.
Oui. L'un de vous veut rebondir ?
Moi, je veux bien rebondir sur le fait de grandir dans cette multiculturalité. On a montré tous les points positifs, mais il y a un aspect, entre guillemets, négatif, c'est, à force de vouloir jongler entre toutes ces cultures, on ne peut pas se sentir à 100% intégré dans l'une ou l'autre, parce qu'on ne peut pas être plusieurs à la fois, je sens. Donc moi, comme j'ai grandi à Marseille et entre toutes ces cultures, je sais que je ne suis pas à 100% ça, à 100% ça ou donc à 100% ça. Et je trouve que quand on est petit, c'est assez dur de réussir à s'intégrer sans vraiment savoir qui on est à 100%. C'est tout ce que j'avais à te dire.
Oui, bah, pour moi, il faut se laisser le temps et poser les bonnes questions. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé. Et quand je rentre, mon père me dit souvent « qu'est-ce que tu as appris ?» Et c'est parce que je vois des cultures différentes, des pays différents, des langues différentes. Et la première question que mon père me pose, c'est « Est-ce que tu vas bien déjà, premièrement ?» Mais souvent, qu'est-ce que tu as appris de ce voyage ? Qu'est-ce qu'ils font différent de nous ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Et ça part souvent sur une conversation qui dure 3 heures. Mais je trouve ça important et il m'a toujours inculqué ça, c'est de, quand je vois quelque chose de différent, me poser et me dire « Qu'est-ce que j'en ai appris ? Qu'est-ce que j'en tire ? Est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que c'était mal pour moi ?» Et est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie quotidienne parfois ? C'est des questions qu'on se pose. Mon père, c'est un homme qui a beaucoup voyagé. Et je sais que toute l'éducation que j'ai, c'est beaucoup issue de ses voyages. Et qu'il nous apporte aussi beaucoup au quotidien en nous expliquant les différentes choses qu'il a apprises des différentes personnes et des cultures qu'il a croisées. Mm. Donc voilà. Merci beaucoup pour cet appel. Il y a un autre appel. Donc on va se retrouver avec une autre question. Oui, bonjour Victor. Oui, on t'entend.
D'ailleurs, je ressens beaucoup, tu vois, quand on parle d'identité, quand on parle de multiculturalité, je sens beaucoup dans tes tripes, Sarah, en train de parler de quelque chose qui est, c'est là qui se ressent. La première chose que je peux vous dire par rapport à ce que vous venez de parler, je vous raconte une petite anecdote que j'ai vécue en tant que réfugié politique en arrivant en France et en Chili. J'ai eu un problème à un moment venu d'identité dans le sens que j'avais une carte de réfugié politique qui s'est marquée OSPRA et c'était marqué apatride. C'est l'OSPRA qui vous donne ce certificat d'apatride. Et à un moment venu, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, qu'est-ce que c'est apatride ? Apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie. Il n'était ni chilien, ni français. Donc ça m'a créé un problème psychologique à l'instant T, quand je me suis rendu compte de ça. Et quand je me suis rendu compte de ça, je passais la résilience, c'est ça, un jour ou deux jours, je me donnais un gros coup de tampon dans ma tête en me disant je suis un terrien. Terrien, ça veut dire que je suis du monde entier, on ne peut pas me dire que je ne suis pas terrien parce que je ne suis pas français, je ne suis pas chilien. Et après, évidemment, j'ai eu la naturalisation française. Ce qui veut dire que l'identité, avant tout, et la multiculturalité, avant tout, pour moi, c'est amour vers les autres. Si on aime les autres, on aime leurs différences. Et aime les autres, moi, soit la prison, soit la prison du coup d'État de Pinochet, soit dans ma vie, je suis beaucoup plus vieux que vous, j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens différents. Et tel comme tu as dit, Sarah, plus je connaissais des gens, plus je me rendais compte que c'est la richesse de savoir, la richesse de se sentir bien. Et la richesse aussi, si on ne l'a pas dit, de partager. Partager aussi des souffrances qui sont différentes selon les cultures, les différents rythmes, les différents rites. Et ça, c'est quand qu'on aime les autres, je pense que déjà, c'est un grand pas. Après, on parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je resterai avec vous après jusqu'à 30 et après je vais vous continuer à vous écouter, mais je ne parlerai plus. Je voulais vous dire aussi, quand on parlait tout à l'heure des différents types de communautés qu'il y a à Marseille, les Sénégalais, Comoriens, et des gens du Maroc, les Marocains, les gens du Maghreb. Donc on a plein de communautés, et quelqu'un l'a dit, il faut faire attention de tomber, se réfugier dans une communauté et pas devenir français. On a parlé à un moment venu des binationaux. Aujourd'hui, j'ai ma nationalité française et ma nationalité chilienne. Je suis binational. Oui, je suis content d'être des pays, mais je suis content d'être appartenir à beaucoup de gens. Donc quand on parlait d'identité ou quand on parlait de multiculturalité, moi, Sarah l'a dit d'une certaine façon, qu'elle a dit que qu'est-ce qui t'a appris? Quand ton père t'a dit qu'est-ce qui t'a appris? Quand je vais à Danemark, je vais aller le mois prochain, je vais aller à Danemark, qu'est-ce que j'apprends? Quels sont les côtés positifs? Mais là, pareil, tu peux avoir un regard positif de la vie, un regard négatif de la vie. Tu peux avoir deux frères, totalement, vous avez une différence de 5 ans, je crois, vous avez dit, des différences entre toi et ton frère.
Oui,
vous pouvez avoir des vies totalement différentes, avec 6 ans de différence, pour différentes raisons. Mon frère, par exemple, il sentait le racisme des autres, les moments qu'il se mettait à parler. Et moi, quand je me mettais à parler, je m'éclatais de rire, dès que les autres, ils rigolaient de mon accent. Ça veut dire que le ressenti, c'est très important pour s'insérer dans les choses. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir sur ce témoignage, parce que je trouve que la multiculturalité, c'est quelque chose de très beau,
oui.
Mais tu peux le vivre partout, quand tu es petit. Mais il ne faut pas oublier que des fois, quand tu arrives, mes enfants, quand ils sont arrivés ici en France, et le fait qu'ils ne parlaient pas trop bien le français aussi, c'était un handicap. Ils ne voulaient pas qu'on vienne à l'école, parce qu'on ne parlait pas bien français, donc il y avait un petit peu de peur que les parents qui parlent pas bien le français, tout ça. Donc,
oui.
Tout ça aussi, tu peux être rejeté. Et un deux mots pour finir, je voudrais juste que tout ça, la semaine prochaine, on va traiter le problème de la confiance en soi. Et quand vous avez confiance en vous, et quand on vous dit vous êtes un bizarre parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes hyper heureux d'être pas comme les autres, d'être quelqu'un dans cette terre qui apporte des choses, donc il faut être fier de soi.
Oui, merci Victor. Merci beaucoup.
Merci et bravo pour,
merci beaucoup, Victor.
Pour cette animation.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Donc, je voulais rebondir sur l'intervention de Victor qui était pleine d'analyse et de témoignages pour parler justement il a parlé d'une peur, donc quand on parlait d'intégration, etc. Moi, j'ai, comme je l'ai dit tout début de cette émission, mes parents qui sont arrivés, donc qui sont comoriens, qui sont nés, qui ont grandi aux Comores. Et c'est vrai que j'ai un rapport différent à la culture, parce que je pense que beaucoup des générations précédentes qui sont arrivées avaient peur d'exposer la culture. Et je trouve que dans les générations qui sont maintenant actuelles, il y a plus une fierté de la culture qu'on a, sans pour autant rejeter la culture qu'on a acquise, mais aussi la fierté de la culture qu'on a acquise de nos parents et qui se perpétue. Donc moi, je vais parler d'abord d'un peu mes parents, de mon témoignage, et je vous laisse après la parole. Donc c'est vrai que quand je pense à la génération de nos parents, je pense beaucoup à vouloir se faire discret et ne pas trop se faire remarquer dans une culture qui n'était pas la leur à la base, et vouloir être le plus neutre possible. C'est à créer presque une neutralité qui rendait un sentiment d'inconfort et de malaise. Et je trouve que ce n'était pas assez accueillant pour permettre aux gens vraiment de se sentir à l'aise et pouvoir créer des choses qui leur sont propres. Et j'ai l'impression que de plus en plus dans nos générations, vu qu'on se sent de plus en plus chez nous, on a presque le devoir et l'acquisition de devoir se dire « Ah oui, on est là, on a cette culture-là et on a ces connaissances-là dans les deux cultures. Qu'est-ce que ça va nous apporter et comment on va le témoigner ? Donc je vais vous laisser dire quelques mots avant de pouvoir lancer la musique, parce qu'il est bientôt la demi. Et après, on continuera sur ce sujet-là. Donc, l'un de vous veut intervenir ? Non ? Il n'y a pas de souci. Moi, je peux terminer mon témoignage avant que la demi arrive. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris beaucoup conscience de ça lors d'un événement que j'ai eu récemment, qui s'appelait Mwana Wahunu, qui était un événement sur la communauté comorienne, mais tout le monde était invité, donc il y avait beaucoup de Comoriens. Et ça, la traduction, c'était « Enfant d'ici ». Et ça parlait du fait d'être Comorien et de la création d'une troisième culture des Comoriens en France et de la jeune génération. Je pense qu'on va aborder beaucoup cette question de deuxième culture, de troisième culture dans la deuxième partie de cette émission. Et c'est vrai que du coup, ça montrait vraiment une fierté d'être Comorien en France et de pas vouloir renier ou effacer des parties de sa culture, mais simplement de montrer quelle est la culture, sans pour autant vouloir dire il faut faire ça. Il n'y a plus de dogme et de diktat qui t'impose des choses, parce qu'on n'est plus dans le pays dont est issue cette communauté. Mais je trouve que c'est important de se remémorer et de se replacer sur les bases et de se demander pourquoi on fait les choses comme ça, pourquoi les choses sont imprégnées de cette manière-là, pourquoi les gens pensaient comme ça aussi. C'est important de décortiquer toute cette manière de voir les choses. Et on se retrouve juste après la musique qui va être lancée tout de suite. Et on donnera la justification. C'est Maria qui a choisi la musique.
Ma musique. Ah ouais, j'adore.
Et voilà. Donc on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Se retrouve après cette musique choisie par Maria. Est-ce que tu veux dire le titre ? Pourquoi tu l'as choisi ?
Ça s'appelle Sports Car de Tate McRae et tout simplement parce que j'adore les vibes à la Britney. Franchement, la musique, elle me donne trop envie de danser. C'est juste ma musique du moment en fait. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, même si vous la connaissez sûrement déjà.
Mais oui, bon, c'est important de choisir une musique qui nous plaît. Et n'hésitez pas, je fais un message à toutes les personnes que je connais et qui regardent et écoutent l'émission. N'hésitez pas à participer parce que vous pouvez choisir la musique au milieu. Voilà, c'est un message à tous nos auditeurs. Voilà. Donc les gens qui veulent faire de la promo de musique, par exemple. Voilà.
C'est le moment.
C'est le moment. Donc, on s'était laissé sur la question du communautarisme et sur l'événement auquel j'avais participé. Et donc, on avait eu la chance d'avoir beaucoup de témoignages. On avait eu des témoignages de gens issus de la troisième génération. Donc, il y avait eu leurs grands-parents qui étaient venus, leurs parents qui avaient grandi et qui étaient nés en France et eux étaient issus de la troisième génération. On avait des gens qui venaient de débarquer, donc qui étaient là depuis un an. Et on avait des gens qui étaient là depuis des vingtaine d'années et qui s'étaient créés un groupe, une communauté ici. Voilà. Moi, je voulais parler des dérives, donc on va aborder que les sujets un peu moins bisounours. Mais oui, donc je voulais parler du communautarisme. Je trouve que actuellement, on a le mot communautarisme très facile. Je trouve que quand une communauté se rassemble, ce n'est pas forcément du communautarisme. Quand ça devient dangereux, c'est quand on se limite justement et ça devient comme une barricade où on reste enfermé dans un seul et même cercle. Mais vouloir être avec ses semblables, c'est pas seulement s'ostraciser et devenir un groupe annexe, c'est parfois juste être avec des gens qui comprennent ce qu'on vit. Voilà, moi je voulais savoir, après je ferai mon témoignage de moi-même, mais savoir, est-ce que vous avez vos petites bulles, vos petits groupes? Comment il est composé? Est-ce que c'est que des gens qui vous ressemblent ou des gens totalement différents? Pourquoi? Et voilà, je viendrai après sur la parole. Vas-y, Karim.
Alors moi, personnellement, j'ai grandi avec... c'est totalement l'inverse du communautarisme. J'ai grandi avec tout et... J'allais dire n'importe quoi, mais c'est mauvais de dire n'importe quoi. J'ai grandi avec tout le monde. Et je trouve que ça m'a vraiment servi dans l'avancement de ma vie, là, actuellement. Parce que j'arrive à assez bien gérer les jongles entre différentes personnes que je côtoie. Et... en mode, je trouve que ça m'aide actuellement à pouvoir aller vers l'autre et sortir du communautarisme, comme tout le monde dit. Mais c'est toujours bien d'avoir une base solide qui nous entoure. Je sais pas comment vraiment dire ça.
Oui, c'est bien dit, c'est bien dit. Une personne veut intervenir? Non? D'accord. Je peux faire mon témoignage s'il n'y a pas de souci. Du coup, moi, de mon côté... j'ai grandi avec tout, hein, et pas n'importe quoi. Mais j'ai grandi avec différentes cultures. Comme je l'ai dit, grandi dans un quartier où on n'était pas beaucoup de Comoriens. Donc à l'école, forcément, on n'était pas beaucoup de Comoriens aussi. Et j'ai souvent été la seule fille noire de ma classe. Et je voyais pas ça, c'est plus avec le recul que je voyais ça comme un problème, parce qu'il y avait ce truc où je me sentais pointée du doigt indirectement, c'est-à-dire que quand on parlait de la communauté noire, on disait vous en me regardant moi, et j'étais là, je ne suis pas toute une communauté. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué, et j'ai eu la chance d'avoir des cours d'arabe en étant toute petite. Donc là on avait la communauté comorienne très présente. Et j'étais pas la fille noire de la classe, mais j'étais Sarah, une fille noire parmi des milliers. Et c'était important, je pense, d'avoir cet équilibre, de pas même me sentir que mon identité ne soit pas seulement être la comorienne de la classe, mais parfois juste être Sarah. Et ça me permettait d'être Sarah quand j'étais la comorienne de la classe. Donc je trouve que ça crée cet équilibre où je me perdais pas, parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on peut être beaucoup plus sensible aux attaques des gens, même quand elles sont indirectes. Et parfois, il y a des choses qu'on n'a pas subies comme des attaques, mais qui, avec le recul, on se dit « ça aurait pas dû être dit comme ça ». Donc, c'est vrai que moi, il y a cette partie-là où je pense pas que je l'aurais dénoncé comme du racisme étant enfant, mais c'est compliqué parfois de se sentir légitime dans les questions que la société nous pose et d'être limite l'étendard de toute une communauté à travers tous. Parfois, c'est un peu fatigant parce qu'il y a des justifications à faire. Mais là, on a un appel, donc priorité au direct, comme dans les informations. Et on va écouter cet appel tout de suite.
Bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Oui, j'avais une question à vous poser. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du fait que, ben, comme de nos jours, en fait, il y a beaucoup d'échanges
en termes de culture, beaucoup d'échanges sur Internet, beaucoup d'échanges entre les différentes cultures des personnes, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles notions qui sont en train d'apparaître de cultural appropriation, je ne sais pas comment dire, l'appropriation culturelle, le fait que il y a des personnes qui adoptent les codes de culture qui ne sont pas la leur, et de cette volonté de certains de vouloir protéger à tout prix leur culture sûrement parce qu'ils ont eu l'impression qu'elle était malmenée par une période et tout. En fait, quelle limite aux échanges culturels et au respect des cultures de chacun?
Alors, qui veut parler? Karim, je te laisse la parole.
Ben, moi, je trouve que il faut faire une, enfin, il y a une barrière entre l'appropriation même et le fait que la nouvelle culture absorbe des parts des cultures des gens. Parce que, par exemple, nos parents, quand ils sont arrivés, enfin, même mes parents pour le cas, ils ont pris une partie de la culture française, mais ils ont aussi partagé leur culture au voisinage. Et je pense que la culture française, parce que c'est celle où j'ai grandi, elle est faite de ça et elle a grandi dans son histoire en absorbant les grains des cultures de toute l'immigration qu'elle a eue. Et je trouve que pour répondre à la question, l'appropriation culturelle, elle a lieu quand on efface l'histoire et pas que quand on s'inspire de la culture de l'autre. C'est ça.
Oui, moi je veux rebondir s'il n'y a pas une de vous qui veut rebondir autour de la table. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se poser dans la question de l'appropriation culturelle, mais il y a beaucoup de cultures qui sont nées de l'appropriation de plusieurs cultures. Moi, je suis comorienne. Tout ce qu'on mange n'est pas comorien. C'est que des remixes de plusieurs choses qui existaient déjà. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai appris le mot d'appropriation culturelle, j'étais en mode, mais du coup, ma culture est-elle légitime déjà à la base? Mais comme c'est une culture ancestrale, on a moins ce pointage du doigt parce qu'elle existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais quand on regarde, c'est toujours des peuples qui se sont rassemblés et qui ont créé une nouvelle culture qui n'existait pas avant. Et je trouve que c'est important, parce qu'il y a l'appréciation, il y a des gens que c'est si tu t'appelles Quentin, t'es né dans la Bretagne, mais t'es fan de Bob Marley et tu veux te faire des locks, ben, moi je trouverais ça pas très beau, mais tu fais ce que tu veux, c'est ta tête finalement. Mais quand tu fais tes locks, il faut que tu saches que d'où viennent les locks et pas juste que ce soit juste un phénomène de mode. Je trouve que justement, il ne faut pas oublier l'histoire des cultures. C'est ça qu'il faut perpétuer et pas empêcher les gens de vouloir faire des choses. Même si c'est pas appréciable, il faut comprendre aussi que des gens seront peut-être blessés par quand on récupère des cultures, il y a des cultures aussi qui sont oubliées, des choses qui sont effacées, et ça devient très compliqué aussi quand c'est monétisé. Donc c'est quand on vend quelque chose et qu'on dit « j'ai créé une nouvelle chose qui existait depuis des siècles dans d'autres pays ». Voilà. Karim, tu veux reprendre la parole? Je t'en prie.
Ben, juste le fait de l'appropriation culturelle, là, ça peut être un peu plus vexant quand on oublie l'histoire, parce que souvent, dans l'histoire, il y a même des barrières à ne pas franchir. En mode de,
oui.
Il y a des, je ne vais pas dire des rites, mais il y a des motifs qui sont utilisés pour telle chose. Et le fait de le faire sortir de ça, je pense que c'est ça qui blesse la population qui est visée par l'appropriation.
Oui, je pense que c'est vraiment la connaissance et le savoir qui peuvent rendre la chose beaucoup plus pérenne. Parce que c'est une chose qui sera inévitable, on est dans la mondialisation, tout le monde s'inspire de tout le monde. Il y a des super belles choses qui sont nées justement de gens qui ont découvert de choses d'autres cultures et qui ont mélangé. Bon, on va pas parler de la cuisine fusion dans certains restaurants, mais il y a des choses extraordinaires qui sont nées de mélanges de plein de cultures et qu'on utilise dans la vie tous les jours, on s'en rend même pas compte que c'est des trucs issus de différentes cultures parfois. Et c'est vrai qu'il y a ce truc où il y a des gens qui veulent absolument protéger la culture et que ce soit que eux les fervents défenseurs d'une culture qu'ils ont eux-mêmes, à qui on a imposé. Mais si on avait fait ça depuis des millénaires, il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas. Et plein de peuples qui n'existeraient pas aussi. Angelina ?
Je pense qu'il y a aussi beaucoup de douleur autour de ça parce que... historiquement, les mix culturels, l'appropriation culturelle, ou en tout cas genre les moments où plusieurs cultures se sont confondues dans l'histoire, ça a été des moments assez violents. Ça a été des moments de colonisation ou de... Enfin, du coup, je pense que dans l'imaginaire, il y a toujours un truc un peu violent dans le fait de s'approprier des cultures ou de les remanier à sa façon ou de... parce que historiquement ça a été quelque chose d'assez... Oui. Voilà.
C'est vrai que quand ça s'inscrit dans le racisme institutionnel, il y a un peu une notion de dominant-dominé. Et c'est compliqué de vouloir justifier, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... mais c'est pas nous qui avons vécu l'histoire, oui, mais elle est là. Et on n'en a pas parlé assez. Donc je trouve qu'il faut en parler, il faut dénoncer, il faut dire quand les gens sont plus ou moins problématiques. Et expliquer aux gens. Franchement, il ne faut pas rentrer tout le temps dans... Même si c'est compliqué. C'est normal d'être en colère, les gens. Mais il faut que certaines personnes aient le temps d'expliquer. Aient le temps de... pour que les gens prennent le temps de s'éduquer. Et si les gens ne veulent pas s'éduquer, ben voilà. Il faudra passer par d'autres moyens. Mais il faut prendre le temps d'expliquer parce que ça peut changer beaucoup la donne chez des gens. Et éviter le phénomène de mode et juste... permettre aux gens de se renseigner et d'être beaucoup plus ouverts, et même parfois de s'imprégner d'une culture et d'être un fervent revendicateur. On sait jamais qu'est-ce que ça peut donner, mais vraiment vouloir pointer du doigt et dire tu fais mal, ça peut même pousser la personne à être dans une provocation limite et à dire bah maintenant je vais faire mal. Vous m'avez pointé du doigt, vous m'avez fait un pressing, comme disent les jeunes. Mais maintenant je veux le faire mal et je veux vous faire mal à vous aussi parce que vous me faites mal. Angie.
Mais ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que surtout, il y a des gens qui s'approprient une culture entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément le cas, mais ça peut être vu comme ça. Et en fait, c'est juste une très forte appréciation pour la culture qui, d'un œil extérieur et pour quelqu'un qui ne connaît pas la personne et qui ne sait absolument pas que pour elle, bah, cette culture, c'est une passion carrément. D'un point de vue extérieur, ça pourrait apparaître comme de l'appropriation culturelle, alors que derrière, la personne est hyper informée, elle a voyagé dans le pays, elle connaît plein de gens, enfin, tu vois, elle a créé tout un truc autour de son expérience de cette culture en particulier, alors qu'elle a pas forcément de lien direct avec à la base, quoi.
Ouais, moi ce que je trouve important, c'est en ce moment on le voit beaucoup dans la mode, il y a des grandes marques de mode qui commencent à faire des djellabas, par exemple. Mais c'est que dans la conversation qui se pose, donc dans la monétisation, c'est d'intégrer les gens qui sont concernés. Je trouve que ça, c'est très important, c'est d'intégrer les gens qui sont concernés par la culture et de leur donner une voix, donc de les intégrer dans ces défilés, par exemple, ou de les intégrer dans les campagnes publicitaires. Mais si nous-mêmes, on ne fait pas partie de la culture, d'intégrer les gens. Je parle de ça aussi dans la musique. Il y a pas mal de chanteurs qui chantent de la musique d'une autre culture. Et on voit la différence entre ceux qui, comme référent, donnent... Par exemple, je parlerais de la soul ou quoi. Il y en a qui donnent des chanteurs de soul, black américaine, qui montrent leur imprégnation dans cette culture-là, etc. Et il y en a qui vont parler d'un nouveau courant artistique, comme s'ils avaient inventé l'eau chaude. C'est un peu la personne qui découvre une communauté qui existait depuis déjà des centaines de millénaires, comme la plupart des grands aventuriers européens. Mais oui, c'est important de rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit, même si César a beaucoup conquis. Mais voilà. Moi, je voulais rebondir après sur l'importance de la situation économique dans la multiculturalité. Parce que c'est vrai que ça force souvent cette communautarité. On a un autre appel, donc encore une fois, priorité au direct. On laisse poser la question, on vous écoute. Allô ?
Oui, bonjour. J'appelais pour poser une question, pour savoir votre opinion sur comment est-ce que le colonialisme et le néocolonialisme influencent comment la société aborde la question de la
multiculturalité.
Voilà. Comme vous avez dit, de nos jours, vous avez parlé notamment du comment les sur le communautarisme. Peut-être que c'est ça vient de là. Quelle est votre opinion?
Vous avez
pour parler tout ce qui est niveau colonialisme et néocolonialisme. Ben, je trouve que déjà il faut dans l'histoire, on sait que c'est le colonialisme qui a détruit certaines cultures. Et le néo, actuellement, elle tend vers la destruction, mais par la passation de savoir, on peut garder, avec nos moyens actuels, on peut réussir à sauvegarder cette culture, la culture qui tend vers... Je sais pas comment dire, mais...
Oui, oui.
le fait de qui
empêche la disparition. Déjà, moi, j'aimerais dire que dans cette émission, on n'est pas des experts. Tout le monde donne son avis selon son vécu. Donc, si on dit des choses qui sont fausses et tout, c'est vraiment nos avis. Et donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous dire, vous, si vous avez un autre avis ou vous partagez d'autres idées. Mais moi, en parlant donc de colonialisme et de néocolonialisme, et donc de l'impact sur la culture, je pourrais dire que oui, il faut avoir un sentiment de préservation que nos aînés n'ont pas eu. Je pense notamment, moi, dans mon cas particulier, je vais revenir sur moi, mais c'est un peu ce que je connais. Mais quand j'ai participé à l'événement Manawahunu, il y avait un linguiste qui était en train de mettre en place plein de livres sur la préservation de la langue comorienne, puisque nous, le comorien, c'est une langue orale qui est seulement parlée. Il n'y a pas d'académie officielle concrète, même si elle est en train de se construire. Et je trouve que c'est des initiatives de ce type-là qui rendent les choses institutionnelles, qui ancrent les choses dans le concret et le réel, qui permettent de préserver des cultures. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était facile de désinformer les gens, en fait, et de se retrouver du coup avec des cultures éradiquées, plus aucune trace. Donc, je trouve ça important. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des grandes cultures qui ont pu garder des traces de tout ce qui s'est passé. Et donc, on peut aller dans des grosses bibliothèques et pouvoir les lire, mais c'est important de continuer à le faire maintenant, et même avec la culture actuelle. Parce qu'il y a des cultures, tout va très vite maintenant, et il y a des cultures qu'on essaye encore d'effacer maintenant. Donc c'est important de recueillir les données le temps que les gens sont encore vivants pour pouvoir témoigner et donner leur avis sur ces différentes cultures.
Moi, je voulais bien intervenir sur l'impact du colonialisme ou du néocolonialisme sur les cultures. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir déjà, je trouve, c'est sur les femmes noires, souvent, l'impact du colonialisme à l'époque... qu'est-ce qui se passe ? L'impact du colonialisme qui a eu lieu, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se reporte toujours dans l'esthétique ou les modes, enfin pas les modes, mais la façon, par exemple, d'avoir des perruques très lisses, très souvent. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui a été, comment on dit, comme ça a été souvent réprimé, les cheveux très bouclés, très voilà, avec des tresses, enfin toutes les formes de coiffure afro. Il y a eu un phénomène où beaucoup de femmes ont commencé à porter leurs cheveux très lisses, etc., et qui a persisté dans le temps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours cette tendance à avoir des perruques ou avoir les cheveux très très lisses pour les femmes noires. Et il y a souvent toujours ce sentiment, pas de honte, mais ça rentre pas dans les codes, en fait, toujours pas. Et ça, je pense que c'est une marque qui est encore actuellement une marque du colonialisme, enfin qui est héritée, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
oui, il y a donc priorité directe, encore une fois. Donc on a un appel et certainement une question, ça arrive tout de suite, on va bientôt la passer à l'antenne, donc ce sera maintenant. Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Ça va et vous?
Ça va parfaitement.
C'est la radio là?
Oui.
Ok, ça va. J'ai vraiment 5%, j'appelle juste parce que mon chat m'a plu. Donc je pense que
merci.
C'est la fin là, juste que j'appelle parce que la multiculturalité, c'est quelque chose dans laquelle j'ai et je voulais juste partager mon expérience.
Oui, bien sûr.
Donc moi, il faut savoir que j'ai grandi dans la culture. Ma mère est algérienne, des cultures. J'ai un côté de ma famille qui est italienne également, donc ça fait qu'à la maison, on parle beaucoup de langues. Et ce qui fait que, avant d'intégrer l'école, je pense qu'au début, il y en avait une qui parlait juste qu'elle parlait russe. Et que quand elle a intégré l'école, en français, elle a pris français à l'école. C'est à peu près la même chose pour moi. Du coup, on parlait plus arabe, créole et italien. Et après, être rejetée comme ça face à une école française, je pense que l'éducation, elle n'est pas... L'école française, en tout cas, n'a pas les bonnes bases pour permettre l'éducation à ce type de personnes. Donc ça, je trouve ça très dommage, sachant que d'avoir plusieurs cultures comme ça, c'est un privilège de fou, en fait.
Oui, c'est sûr.
Parce qu'on a beaucoup de cultures, on a beaucoup de, d'ouverture d'esprit, on comprend beaucoup de choses, etc. On parle plusieurs langues aussi, ce qui est très bien. Mais vraiment, c'est juste pour faire un petit coup de gueule sur l'éducation qui ne sait pas prendre en charge ce genre d'élèves. Comme dans ma scolarité, j'ai pu être face à des élèves qui ne parlaient que arabe et qui ne pouvaient pas avoir l'éducation. Donc voilà.
Oui, c'est sûr que. Ben, merci beaucoup. C'est sûr que c'est compliqué de pouvoir se sentir appartenir à une culture quand on ne laisse pas l'accès, surtout par le biais de la langue. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, j'aimerais bientôt conclure l'émission avec une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la multiculturalité pour votre vie à vous et dans l'avenir en général ? Je vais vous laisser d'abord commencer et moi je vais conclure pour pouvoir conclure l'émission. Donc Maria, je te laisse parler.
Alors du coup, moi j'espère que si un jour j'ai des enfants, je vais leur parler en russe également comme moi, ça a été le cas à la maison, tout en préservant quand même cette double culture, c'est-à-dire qu'ils vont quand même aller à l'école en France évidemment, mais je trouve que c'est important de garder cette langue russe à la maison parce que tout simplement j'ai un exemple concret. J'ai par exemple une amie russe qui a parlé à ses enfants en français à la maison et ça fait que du coup ils parlent français, ok, tout va bien, mais ça les a coupés de la famille qui est toujours dans le pays et du coup on peut pas vraiment communiquer parce qu'elle a tellement voulu s'intégrer qu'au final c'est aussi handicapant d'un autre côté dans le cadre de la famille. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu et il faut continuer à perpétrer ça, c'est-à-dire le respect de la culture d'où l'on vient et de la culture où on est actuellement dans le pays, en France. Voilà.
Ok, merci beaucoup Maria. Toi Karim ?
Pour ma part, je pense que dès l'arrivée de mes parents en France, il y a eu une création d'une nouvelle culture. Et je ne suis pas forcément, moi, la deuxième génération arrivée en France, pionnière de ça. Donc je trouve qu'en vrai, dans mon avenir, je vais juste continuer à créer cette culture, créer... ce groupe,
ouais, pérenniser
ce groupe pour l'avenir.
Okay. Ça. Et toi Angie?
Moi je pense que le meilleur cadeau que je peux offrir aux personnes qui m'entourent et potentiellement mes enfants si j'en ai plus tard, ça sera de partager vraiment cette capacité d'adaptation, cette ouverture d'esprit qui m'a été permise grâce à mon voyage et à ma vie en Malaisie. Parce que c'est vrai que c'est un grand cadeau, je trouve que ça permet vraiment de voir les choses avec beaucoup de recul et de jamais juger en fait, donc ça c'est sympa.
Et moi, je vais conclure avec mon témoignage. Donc moi, l'avenir, je le vois comment ? Donc forcément avec la création d'une nouvelle culture. Et malheureusement, comme on en a parlé, ce sera la perte de certaines parties de la culture, mais c'est des choses qui vont avec la vie. C'est l'apparition et la disparition de choses. On avait une question sur notre Instagram qui disait « Grandir avec plusieurs cultures fait de nous des gens avec plusieurs cultures ou sans réelle culture légitime ?» Et en fait, c'est un peu ce que disait Karim, pérenniser une nouvelle culture qui se crée, donc rendre légitime une culture en évolution. Tout va plus vite qu'avant, c'est ça un peu qui pose la problématique, mais c'est important de se recentrer et de savoir bien communiquer et garder les aspects importants de notre culture. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux et à réécouter sur Radio Galère cette émission. Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine avec comme thème la confiance en soi. L'animateur sera à nouveau Victor Hugo. Et on vous laisse avec nos réseaux sociaux pour découvrir les différents invités et comment on va parler de ce thème-là en particulier. Et je laisse la place à tout le monde pour dire au revoir. Et merci beaucoup pour votre écoute.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Merci. À bientôt, ciao.
8.4 Radio Galère.